Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. Comment les journalistes doivent-ils se positionner face aux infox et aux théories complotistes? Quelle posture peuvent-ils adopter face à celles et ceux qui les diffusent et les partagent? Pour discuter de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste Julien Pin. Créateur, il y a bientôt 15 ans, du service des observateurs de France 24, il est maintenant rédacteur en chef et présentateur de l'émission Vrai ou Fake sur la chaîne France Info. Dans l'entretien que vous allez entendre, il nous explique comment lui et ses équipes travaillent sur le terrain et sur le numérique. Je rappelle que comme chaque semaine, cette émission dure 20 minutes à la radio, mais elle est aussi disponible en version longue en podcast. Vous pouvez vous y abonner gratuitement sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'application Radio France. Salut Julien.
Salut.
C'est un plaisir de te recevoir dans l'Atelier des médias.
Et ben moi, je suis très content de revenir chez mon ancien patron. Ouais.
En 2007, tu as créé les Observateurs de France 24, une équipe de journalistes qui depuis 15 ans maintenant, bientôt, vérifie des images amateurs et s'appuie notamment sur une communauté d'internautes. L'audiovisuel public français unit ses forces là en ce moment pour vérifier les images. Il y a d'ailleurs une cellule commune au groupe public qui a été créée, son nom les Révélateurs. J'imagine que ça te fait plaisir de voir que ce sujet est encore à la mode et puis de voir que tu étais déjà dans le vrai il y a 15 ans.
Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, et d'ailleurs ça a commencé dans cette émission aussi, hein, parce qu'on a fait les observateurs, mais à l'époque on était déjà dans l'atelier des médias. Et il y a 15 ans, on a fait ce pari un peu fou de se dire les images amateurs, ça devient très important. Et pour ceux qui ne se rappellent plus, il y a 15 ans, le matériel qu'on avait, c'était des smartphones qui faisaient des vidéos toutes pourries, indiffusables quasiment à la télé. Donc il y a plein de gens qui me regardent en disant « mais ça passera jamais à la télé ton truc ». Puis finalement, voilà, on le voit aujourd'hui, 15 ans après, c'est incroyable. L'essor des images amateurs, il n'y a plus un événement, une breaking news pendant laquelle on n'est pas abreuvé d'images amateurs. Donc la nécessité de vérifier les images amateurs, elle est d'autant plus grande en ce moment. Et c'est pour ça qu'à France Télé, là, on a mis les bouchées doubles et on va vraiment monter une équipe spécialisée avec des technologies, avec du matériel spécialisé pour vérifier les images.
Ouais. Parce que j'imagine que c'est de plus en plus compliqué maintenant de vérifier ces images.
C'est ça, c'est que le bon côté, c'est que à l'époque, peut-être, il y avait des images amateurs, mais elles étaient de mauvaise qualité. Donc, quelque part, maintenant, la différence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les deepfakes. Donc, il y a des technologies extrêmement sophistiquées qui permettent de prendre une image et de la manipuler complètement. Alors, il y a 15 ans, ça n'existait pas. C'était des images encore de mauvaise qualité. Et donc, cet enjeu, il est important. Et en même temps, ça devient très compliqué de les vérifier. C'est-à-dire qu'on avait des techniques un peu... c'était de la débrouillardise il y a 15 ans. On vérifiait comme on pouvait. On passait beaucoup de coups de téléphone sur place à nos observateurs pour les vérifier. Aujourd'hui, tout a changé et maintenant, il faut être technologiquement au niveau des mecs qui sont en train de nous désinformer. C'est-à-dire que ces deepfakes sont faits par des gens qui maîtrisent très bien les logiciels, l'informatique, etc. Eh bien, nous, il faut qu'on se mette au même niveau. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Les deepfakes, donc, c'est la possibilité de s'appuyer sur une photo ou sur une image vidéo pour faire dire à quelqu'un, une personnalité publique, des choses qu'elle n'a généralement pas dites.
C'est ça, et on se dit qu'avec la présidentielle qui arrive en France, ça peut être un enjeu, parce qu'on imagine, par exemple, deux jours avant le scrutin, une vidéo où on verrait Emmanuel Macron en off dire quelque chose de terrible. Ça peut être ravageur au moment d'une élection, ça peut peut-être faire basculer un scrutin, et pour l'instant, très honnêtement, on n'est pas tout à fait prêt à lutter contre ça, et c'est pour ça qu'on s'y prend un peu à l'avance là.
Julien, dans l'émission que tu présentes, Vrai ou Fake, diffusée le dimanche à 21h15, heure de Paris sur France Info, la chaîne publique, comment allez-vous travailler, justement, en vue de la présidentielle sur ces questions-là.
Alors, sur Vrai ou Fake, qui est l'émission de fact-checking que j'ai maintenant depuis 3 ans sur France Info, bah, on se prépare évidemment bien en amont et on va essayer d'explorer un peu tout l'univers actuel des fake news qui va avoir un impact pour cette élection présidentielle. Alors, ça fait 2 ans qu'on le sait, hein, les intox sur notre santé, elles sont montées en flèche avec la pandémie. Énormément d'intoxication sur notre santé, de désinformation. Ça, on se dit que c'est uniquement sur la santé, mais pas seulement, parce que ça va avoir un impact politique, parce que derrière ces attaques, c'est des attaques évidemment sur la gestion de la crise sanitaire. Chaque parti va essayer de surfer sur cette crise sanitaire pour dire « moi j'ai la vérité, bon bah nous on va être là pour vérifier tout ce qui sort ». Et puis après, il y a un gros enjeu aussi qui est classique, c'est la vérification de la parole politique. On le voit déjà, chaque interview, il y a une ou deux fake news qui se glissent dans la plupart des bouches de candidats en ce moment. Donc on a des équipes qui maintenant, tous les matins, écoutent tout ce qui se raconte non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les émissions politiques, et on va scruter pour éviter de tomber dans les panneaux de politiques qui voudraient nous désinformer.
Ce savoir-faire là, de vérifier les informations, il est de mieux en mieux partagé chez les profils de journalistes que tu côtoies au quotidien, toi. Est-ce que tu arrives facilement à embaucher des débusqueurs de fake news?
C'est mieux qu'il y a 15 ans. Ça, c'est sûr. Il y a 15 ans, on était des hulberlus. C'est-à-dire qu'on nous regardait un peu comme ça en disant, mais c'est qui ces types qui font du fact-checking? Qu'est-ce que c'est? Je pense que le mot fact-checking, par exemple, il est un peu rentré dans le langage courant. L'idée de vérifier les infos et que c'est une discipline un peu à part et spécifique dans le journalisme, je pense que c'est rentré dans les têtes. Après, je pense que on est encore loin du compte. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sortent d'école et qui ont commencé à se former au fact-checking. Dans la plupart des écoles de journalisme, il y a une formation maintenant dédiée au fact-checking. Mais encore une fois, on est loin du compte en termes de maîtrise des technologies. Parce qu'on arrive maintenant dans un domaine très spécifique où il va falloir maîtriser des technologies. Et tu le sais, Steven, comme moi, les journalistes, on n'est pas encore assez bons dans ce domaine-là. On est des gens qui viennent plutôt des humanités. On a fait des études, mais des études plutôt littéraires, etc. Et donc, dire aux gens, bah, maintenant, il va falloir se mettre à élever vos compétences en informatique pour maîtriser ces technologies, parce que sinon vous serez largué par rapport aux faiseurs de fake news, bah c'est encore compliqué.
J'aimerais maintenant, Julien, qu'on s'intéresse aussi à la façon dont tu travailles sur le terrain. Et pour ça, eh bien, on va discuter ensemble d'un reportage que tu as fait au mois de juin dans une université citoyenne du côté d'Avignon qui rassemblait des têtes de pont de la désinformation. On va écouter un des participants à ce rassemblement, un certain Richard Boutry.
C'est triste à dire, hein, mais aujourd'hui 90% des Français, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça je vous demande vraiment de le garder, 90% des Français sont vraiment dans notre sens. Hein. J'ai une vraie crédibilité dans le milieu de la presse, personne ne m'a pris pour un éberlué, pour un
truc.
J'étais un des plus jeunes présentateurs de France, j'ai continué à avoir une renommée, une crédibilité, j'étais pris partout.
Je vous ai entendu dire que le vaccin était dangereux pour la santé, ça je vous ai entendu le dire.
Mais bien sûr, mais on ne peut pas penser à autre chose. Est-ce que vous pensez à autre chose? Vous êtes libre de penser à autre chose?
En tout cas,
vous avez des enfants?
Oui, bien sûr.
Ouais. Ouais. Vous allez les faire piquer, vos enfants?
Piquer, alors on a l'impression que je vais les faire piquer comme à.
Vous les envoyez à l'abattoir, vos enfants?
Et pour l'instant, un conseil
d'amis, même si vous n'êtes pas un ami, surtout ne le faites pas, je peux vous dire.
Mais alors pourquoi? Quel est le danger? Parce que pour l'instant, les autorités sanitaires nous disent qu'il n'y a pas eu de mort causée par la vaccination. Ah
ouais. On attend que les gens y meurent, alors.
Les autorités sanitaires, vous dites. Vous avez.
Moi, par exemple, j'ai essayé de chercher des cas de gens qui sont morts à cause du vaccin, et pour l'instant, j'en ai pas trouvé.
Ah, vous n'avez pas trouvé? J'ai des kilomètres et des kilomètres de personnes qui me disent, toute la journée, je reçois des centaines de mails, ils le voient parce qu'ils travaillent avec moi, centaines de mails de personnes qui m'ont dit, dans mon entourage, telle et telle personne est morte du vaccin, telle personne a un état psychologique qui a complètement varié depuis qu'elle s'est fait vacciner, telle et telle personne qui aujourd'hui sent du chaud et du froid, telle et telle personne qui regrette aujourd'hui de s'être fait vacciner, et c'est vrai que c'est un nombre considérable aujourd'hui.
Et comme vous êtes journaliste comme moi, un de nos premiers réflexes de journée, c'est qu'on va vérifier ça. Donc on reçoit un message, après il faut enquêter pour savoir si c'est vrai, parce que vous êtes bien d'accord qu'un message, ça ne veut pas dire que c'est vrai.
Mais enfin,
est-ce que vous avez enquêté sur les différents messages que vous avez reçus?
Dans les milieux qui sont les nôtres, peut-être contrairement aux vôtres, les gens sont assez sachants, sont assez clairs, sont assez vraiment éclairés, sont assez inspirés, sont assez alignés, et ont une connexion. Et ces gens-là sont des gens vrais. Et les gens que vous voyez ici, ce sont des gens vrais.
Julien Pain, on t'entend là interviewer l'ancien journaliste Richard Boutry qui tient des propos et on te sent halluciné face à lui.
Alors halluciné, c'est quelqu'un que je connais. C'est-à-dire que je suis allé à cette université citoyenne, je savais déjà qui j'allais rencontrer, je connaissais un peu ses arguments. Et Richard Boutry, oui, c'est un profil particulier puisque c'est quelqu'un qui est un ancien confrère, quelqu'un qui a travaillé
à France Télévisions,
je crois aussi à TV5 Monde, bon, et qui a complètement dérivé ensuite. Alors est-ce que c'est pour se rechercher une notoriété et avoir une sorte de deuxième vie médiatique, je sais pas, mais en tout cas oui, il a des propos complètement délirants maintenant sur la pandémie. Mais ce que je trouve intéressant dans cet extrait là c'est que vraiment il a perdu toute capacité à faire un travail journalistique. C'est-à-dire qu'on le voit, lui il part du principe que la personne qui lui envoie une information, si c'est quelqu'un qu'il aime bien, il considère que c'est une information qui est vraie, qui est vérifiée. Ça, c'est l'opposé complet de la démarche journalistique. Donc, quand on entend ça, quand on est journaliste, t'as raison, j'étais halluciné. Et je pense que la séquence montre bien l'écart qu'il peut y avoir entre cette personne et les techniques journalistiques et le monde journalistique maintenant.
On t'entend souvent utiliser le « je » dans ces entretiens, dans ces discussions sur le terrain, dire « j'ai vérifié, je suis allé ». C'est important pour toi, face à tes interlocuteurs, de ne pas juste leur poser des questions, mais aussi leur expliquer ta démarche?
C'est un vrai dialogue. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que la désinformation, on ne peut plus lutter contre simplement, soit en se moquant des gens, c'est-à-dire en disant mais c'est vraiment n'importe quoi, soit en n'allant pas de parler avec eux et en se contentant de donner, nous, notre version des faits. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, il se passe ça, et s'il y a une contre-vérité qui sort d'un côté, on l'ignore, parce que, de toute façon, on est le média traditionnel, on est ceux que les gens écoutent. Bah, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et donc, moi, je pars du principe qu'il faut que j'aille dialoguer. Mais pour aller dialoguer, il faut accepter d'écouter. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement dans je pose ma question, j'écoute pas vraiment la réponse et je passe à autre chose. J'écoute vraiment ce qu'il me raconte. Et j'essaie d'avoir préparé suffisamment mon interview pour être capable de contrecarrer les arguments qu'il va me donner. Et c'est l'échange, j'espère, qui va être utile au téléspectateur ou à l'auditeur pour ensuite se dire, tiens, je vois bien la différence entre un travail journalistique et ce que fait ce type-là.
C'est intéressant ce que tu dis, la préparation. Avant de partir à cette université d'été, tu avais potassé le truc, tu arrives avec tes petites fiches. Comment ça se passe concrètement ?
Alors moi, c'est un univers que je suis tout le temps. C'est-à-dire que je suis dedans du matin au soir et je fais que ça, suivre leurs arguments et réfléchir à comment les démonter. Je commence par me demander si c'est vrai ou faux. Bon, et ensuite, quand je m'aperçois que c'est faux, parce que ces gens-là, on le sait, sont des as de la désinformation, eh bien, j'essaie de trouver les arguments imparables qui vont permettre, dans une discussion, de répondre et de convaincre. Alors, je ne vais pas les convaincre eux, parce que vous l'avez bien compris, c'est des gens qu'on ne peut pas convaincre. C'est idéologique, c'est des trajectoires de vie, bon. Mais par contre, j'espère convaincre ceux qui regardent la vidéo et qui se disent, tiens, je ne savais pas trop si c'était vrai ou faux, eh bien, je vais plutôt pencher du côté de Julien Pin. Et je prends le jeu, parce que oui, c'est moi. C'est moi. Et quand on se regarde dans les yeux avec quelqu'un, oui, c'est moi. Je ne vais pas faire semblant de me cacher derrière. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas... J'essaie de ne pas être biaisé, j'essaie d'être honnête dans ma démarche, mais ça reste moi qui parle avec quelqu'un d'autre, c'est deux êtres humains qui se rencontrent. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est juste la dernière chose, les gens sont extrêmement violents dans ce genre de circonstances, quand on les a en face à face, les yeux dans les yeux, la discussion est beaucoup plus apaisée.
Dans Le Monde dernièrement, tu as déclaré « Il faut montrer qu'on fait un métier d'artisan, qu'on essaye de fabriquer de l'information aussi honnêtement que possible ». L'honnêteté, pour toi, c'est fondamental ?
Bah alors, c'est un vieux débat, et ça, c'est pas moi qui le dis simplement. Hein. C'est que notre rôle, c'est d'être honnête. Est-ce qu'on peut être neutre ? Probablement pas. Moi, j'arrive comme Julien Pin, Steven, on arrive avec notre background, comment on a été élevé, nos idées politiques, parce qu'en tant que citoyen, on a des idées politiques. Mais j'essaye d'être honnête, c'est-à-dire que si je vois un argument qui contredit ce que je pense, je vais le prendre en compte. Et c'est ce que font pas les gens qu'on a écoutés là. Quand il y a un argument qui les contredit, ils se débrouillent à le passer sous le tapis. Moi, j'essaye de vraiment, s'il y a un argument qui me semble étonnant, mais qui va à l'encontre de ce que je pense déjà, je vais l'écouter et je vais peut-être changer ma version des faits. Pour moi, c'est ça, l'honnêteté. Et sur l'artisanat, qui est quelque chose de très important aussi, les gens ont l'impression qu'on est un peu des intellos, qu'on vit dans une bulle avec des politiques, comme si on allait, moi, j'allais déjeuner avec Véran le soir. Non. Notre métier, c'est un métier d'artisan. On prend des images, on les monte, on pose notre voix dessus. Il y a des techniques, comme quand on fait une chaussure, il y a des techniques de cordonnier. Le journalisme, c'est des techniques de vérification, de fabrication. Et il y a un côté très artisanal dans ce travail. Et je pense que c'est important de montrer ça aux gens.
Et de savoir dire aussi parfois « je ne sais pas ».
Ah bah, je pense qu'il ne faut surtout pas, quand on ne sait pas, faire semblant. Donc moi, c'est quelque chose que je dis très souvent quand je suis en train de parler avec quelqu'un. S'il y a un argument sur lequel j'ai suffisamment bossé, j'ai la réponse, je lui dis. Quand j'ai pas la réponse, je lui dis, je vais chercher.
Tu te présentes aussi sur le terrain, tu dis « je travaille pour France Info ». Le fait d'être journaliste du service public dans ce genre d'événement, est-ce un atout ou pas ?
Alors, le fait d'être journaliste d'une manière générale, c'est plus vraiment un atout. C'est-à-dire que dans ces manifestations-là, j'étais dans les manifestations anti-pass sanitaire il y a quelques jours.
On en reparlera.
Bon, c'est forcément, on a une casquette qui est compliquée parce que les gens sont très réactifs et ils sont très critiques de notre profession. Après, le service public, je trouve qu'on s'en sort plutôt mieux que les autres. Les gens qui sont le plus pointés du doigt, c'est pas forcément nous. Mais c'est pas non plus une sorte de blanc-seing en manifestation. Les gens peuvent être très critiques, voire peut-être... parfois violent. Hein.
Justement, parlons un petit peu peut-être de la violence, justement. Les violences contre les journalistes en France se sont multipliées dans les manifestations. C'était le cas lors de la loi travail en 2016 et puis plus encore depuis le mouvement des Gilets jaunes qui a débuté en octobre 2018. Tu étais dans les mobilisations contre le pass sanitaire cet été, notamment le 28 août où tu as subi des insultes mais pas été davantage malmené. Il y avait un agent de sécurité avec toi. Est-ce qu'on se fait à ça, en tant que journaliste, d'être suivi par quelqu'un qui assure tes arrières ?
C'est compliqué. Moi, c'est la première saison où je travaille avec des agents de sécurité avec moi. Alors, très honnêtement, au départ, je ne voulais pas. Je préférais y aller seul. Et j'y suis allé seul dans d'autres manifs, notamment des manifs de gilets jaunes, j'y allais seul. Maintenant, je reconnais que je pense que c'est nécessaire, très honnêtement, parce que je pense que 95% des manifestants, quand on dialogue avec eux, on arrive à calmer le jeu, même quand ça devient agressif. Moi, j'arrive très souvent à rappeler que voilà, tu m'agresses, mais parlons, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que tu veux juste me casser la gueule? Dans ce cas-là, je pars, mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Et quand on parle vraiment avec les gens, qu'on les écoute, en général, ça passe très vite. Le problème, c'est que j'ai l'impression que maintenant, il y a des groupes qui sont vraiment là pour nous cibler, nous harceler, voire nous casser la gueule. Et là, je ne veux pas prendre ce risque, parce que je ne vois pas l'intérêt. Et donc, ce que je demande aux gardes du corps, c'est de rester très loin de moi. Ils restent très loin. Je ne veux pas avoir cette impression que les gens me parlent avec des colosses à côté de moi. En revanche, je veux pouvoir être exfiltré si jamais ça se passe mal. Très honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, je pense que ma façon d'aborder les gens, où je pense que j'essaie de montrer de la bienveillance et de l'écoute, ça aide. Mais après, je ne veux pas faire le malin, parce qu'il y a d'autres confrères qui travaillent tout à fait correctement dans les manifs qui se sont fait agresser. Et je sais que ça peut m'arriver aussi. Donc, j'étais contre, mais je pense qu'en même temps, en ce moment, c'est nécessaire.
Parlons des reproches justement qu'on peut faire et que ces gens font aux journalistes durant les manifestations. Ces reproches sont-ils un peu explicités ou alors, comme tu le disais à demi-mot, le fait d'être journaliste te fait que tu es pointé du doigt comme si les médias étaient un tout?
Je pense qu'il y a une méconnaissance totale de ce que c'est qu'être journaliste. Il y a une méconnaissance de notre métier, de comment on travaille. Et c'est vrai que je sais pas, il y a peut-être 150 ans, les journalistes faisaient partie d'espèces d'élites de la France, et il y avait une connivence extrême avec les milieux peut-être financiers. Ou bon, on faisait partie de l'élite à l'époque. Il faut revenir que même sociologiquement, on fait plus partie de cette élite, même en termes financiers. Les gens très riches, c'est pas nous. Donc on n'est plus dans ces milieux-là. Mais il reste cette idée qu'on est dans une sorte d'élite en connivence avec les autres, ce qui est faux. Alors après, en plus, il faut connaître le journalisme, et toi tu le connais très bien. Il y a des disciplines très différentes dans le journalisme. Il y a par exemple des éditorialistes. Donc il y a des gens qui sont là pour payer, pour donner leur avis. Puis il y a des stars de la télé qui évidemment vont être payés très bien, beaucoup mieux que la moyenne des Français. Il y a des gens qui sont des reporters de terrain, qui font que aller se spécialiser dans aller sur le terrain, même aller sur des terrains de conflit. Comment mettre tout le monde dans le même panier? Il y a des gens maintenant, pour les citer, comme CNews, qui font du journalisme, mais complètement idéologisé et politique.
C'est une chaîne d'information en continu en France qui donne une grande place au débat et au débat d'opinion.
Au débat d'opinion, et on va le dire, qui est tenu par des gens qui sont des gens proches de la droite dure, voire de l'extrême droite. Donc, forcément, si on nous met tous dans le même panier, c'est très compliqué. Moi, je me sens absolument rien dans ma pratique journalistique. Je me sens pas du tout proche de ces gens-là. Mais les gens, ils ont tendance à nous dire « Allez, il y a la caste des journalistes et je vous mets tous dans le même panier. »
Julien Pin, retournons près d'Avignon, à l'Université citoyenne où tu t'es rendu en juin dernier, avec une autre rencontre. Cette fois-ci, c'est le chanteur Francis Lalanne.
Au moment où toute la science disait que la Terre est plate, une minorité de personnes disait que la Terre était ronde. Qui avait raison?
D'accord, alors du coup, ça c'est un très bon exemple, parce que si quelqu'un aujourd'hui vous disait « la Terre est plate », est-ce qu'il a le droit de le dire, parce qu'il n'est pas spécialiste, il ne connaît rien, mais en même temps, sa parole vaut le coup? Ou alors vous allez plutôt écouter Thomas Pesquet qui, lui, est en l'air et prend des photos de la Terre? Là, vous voyez bien que vous n'allez pas écouter personne qui vous dit que la Terre est plate.
Alors,
et on est dans la même situation aujourd'hui.
Non, je vais répondre à votre question en disant « j'ai le droit, à partir du moment où j'ai deux opinions scientifiques, d'accord, j'ai le droit, moi, de choisir la vision minoritaire et de bâtir ma religion sur la vision minoritaire. Donc c'est un débat dans lequel chaque citoyen aujourd'hui doit avoir le droit de rentrer et choisir son camp, sans qu'on accuse l'un d'être complotiste s'il ne s'accorde pas avec la vérité officielle. Aujourd'hui, dès que vous avez une pensée divergente, vous êtes qualifié de complotiste. C'est inacceptable.
Julien Pin, face à ce genre de personnalité comme Francis Lalanne, chanteur, qui en gros te dit que, eh bien oui, les faits sont peut-être les faits, mais je les interprète un peu comme je veux. Comment réussis-tu à te positionner et quelle est la bonne démarche? Je vois que tu essayes d'aller toujours très très loin avec ces gens-là, d'essayer de les... Mais réaliser, rendez-vous compte quand même, on ne peut pas dire ça, il y a quand même la science, il y a 200 ans d'histoire derrière ça. Et pourtant, eh bien, il continue à te maintenir, oui, mais c'est mon avis et j'ai le droit de l'avoir.
Oui, mais encore une fois, il faut bien retenir que moi, je ne m'adresse pas à Francis Lalanne, en fait. Je m'adresse à tous les gens qui vont regarder mon entretien avec Francis Lalanne. Parce que Francis Lalanne, je ne le ferai pas changer d'avis. Il est sur un créneau, il est en ligne droite vers la désinformation parce que ça lui redonne une visibilité, je pense, parce qu'il en est peut-être convaincu. Mais je m'adresse pas à lui. Je m'adresse à tous les gens qui vont écouter notre conversation. Et donc, j'essaie de faire comprendre un biais très simple. Et là, c'est des principes très simples qui sont qu'en science, Pourquoi on écoute des spécialistes? Tout simplement parce que c'est des problèmes complexes et que, en tant que néophyte, croire, donc personne qui n'y connaît rien, croire qu'on peut, par exemple, analyser nous-mêmes une étude scientifique sur les vaccins et en tirer à la sortie une réponse qui serait « Ah, regardez, ça n'a aucun sens !» Francis Lalanne ne peut pas, plus que moi d'ailleurs, lire une étude scientifique sur les vaccins et dire à la fin « Il s'est trompé, il a raison, et pour telle et telle raison. » C'est un travail de spécialiste. Il est chanteur, et dans son domaine, il est compétent. Donc j'essaye d'expliquer ce principe très simple aux gens qui regardent la vidéo.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des circuits informationnels totalement parallèles qui sont créés et qu'il y a des personnalités qui se glissent là-dedans et que eh bien, les désinformateurs vont aussi chercher des gens qui sont dans le domaine de la médecine, par exemple, pour s'exprimer sur le virus, mais qui ne sont pas virologues ou qui ne sont pas spécialistes de la spécialité. Et pourtant, eh bien, ces désinformateurs prennent ces discours-là comme des discours de spécialistes.
Alors pareil, c'est quelque chose à expliquer aux gens, c'est que on peut être médecin sans avoir de connaissances approfondies dans le domaine de la virologie, donc de l'étude des virus. Et donc un médecin généraliste qui vous dit « moi je pense ça et ça sur la virologie », attention, écoutez plutôt quelqu'un dont c'est le métier. Encore une fois, les journalistes, on est très différents, et c'est pareil pour les médecins. Et puis ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a une partie des médecins infimes. Ils sont quelques-uns, ils sont quelques poignées, à avoir choisi eux-mêmes un créneau qui est en gros d'exister médiatiquement à travers de la désinformation. Donc c'est les Louis Fouché, Perron, alors bon, on les connaît, ils sont quelques 5, 10, très peu de gens, mais ces gens-là, ils crédibilisent ce mouvement. Donc en fait, parce qu'il y a 3-4 médecins qui pensent le contraire de l'immense majorité du corps médical, on va retenir ces mecs-là. Alors qu'en fait, il y a une idée encore très importante qui est l'idée d'un consensus scientifique. Les médecins, au bout d'un moment, s'accordent sur l'idée que la recherche, pour l'instant, donne cette réponse-là. Et si on vient à dire le contraire complètement, en général, c'est qu'on se plante.
Quel discours, justement, est-ce que tu essayes d'avoir face à tout cela? J'entends dans ton émission Vrai ou Fake que tu donnes même toi aussi parfois ton avis. J'espère que ou je pense que c'est important, encore une fois, de montrer que face à ces discours anti-médias, ces discours complotistes, il y a une vérité et des faits qui sont indiscutables.
Ouais. Alors non, je donne pas mon avis. C'est-à-dire que je pense que je sais pas comment c'est interprété et peut-être que dans ce cas-là, c'est un bien que je le précise. Moi, je donne pas mon avis. Moi, j'essaye de donner les faits. Donc j'essaye d'exposer les faits et ensuite à chacun de se faire une opinion dessus. Donc par exemple, je vais dire, sur les vaccins, on sait ça, on connaît ça de la dangerosité, on sait ça de leur efficacité. Maintenant, vous êtes contre le pass sanitaire, c'est un autre problème. À vous de réfléchir, est-ce que vous voulez qu'on restreigne nos libertés pour... Je ne donne pas mon avis là-dessus, même si j'en ai un, mais je ne vais pas le donner. Quand je vais dire « je », c'est que par exemple, quelqu'un qui me dit une contre-vérité qui m'inquiète, je vais dire « oui, je m'inquiète ». Parce que là, j'ai pas de scrupules à dire qu'en tant que journaliste, je suis un citoyen aussi. Et j'ai le droit, quand quelqu'un me désinforme ouvertement et je sais que ça va amener des gens en réanimation, j'ai le droit de dire « je suis inquiet ».
Et je trouve que ce discours est dangereux.
Mais je trouve que ce discours est dangereux. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt à ce moment-là. Ouais.
On se rend compte aussi que les espaces d'information maintenant sont de plus en plus fragmentés. Je parlais de circuits de parallèles d'information, des gens qui font même qui vont sur des sites de réinformation, comme on les appelle. Où se retrouver maintenant, justement, pour confronter les idées, pour le débat d'idées? Est-ce que ta démarche, c'est un peu, justement, d'aller à la rencontre des gens et de créer de nouveaux espaces?
Dans la rue.
C'est dans la rue que ça doit
dans
se passer aussi.
Dans la rue, dans la vraie vie. Je suis un journaliste, ça fait 15 ans que je me suis mis sur Internet, les réseaux sociaux. Je veux dire, j'ai basé une grande partie de ma carrière là-dessus et j'en suis arrivé. Et c'est triste à me dire qu'il fallait que j'aille dans la rue. Parce que les réseaux sociaux, j'imagine que vous en avez parlé des dizaines de fois dans cette émission, nous enferment dans des bulles où on parle entre gens qui sont d'accord. Donc les désinformateurs se retrouvent entre eux et sont dans un monde où ils sont tous d'accord sur... voilà. Et moi, je pense que pour briser cette bulle, je vois pas d'autre moyen. Et si vous en avez, écrivez-moi parce que ça m'intéresse, j'y réfléchis tout le temps. Je vois pas d'autre moyen que d'aller regarder les gens dans les yeux et parler avec eux. Et après, on peut mettre le résultat à la télévision et sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est certainement pas uniquement avec le travail que je fais à la télé que je vais m'en sortir. Et puis encore une fois, à la télé, moi, je m'adresse pas tellement aux désinformateurs qui sont complètement dans leur couloir, idéologisés, incapables d'écouter. En revanche, je pense que dans votre famille à tous, vous avez autour de vous des gens qui se posent des questions, qui vous posent des questions à table. Là, j'espère que cette émission que je fais, elle aide à donner des éléments de réponse. Comme ça, si vous avez Tante Martine qui vous dit que le virus est dangereux pour telle et telle raison, vous avez les réponses et vous pouvez lui dire non, en fait. Parce qu'on s'est vraiment aperçu que dans le domaine de la désinformation, C'est par les proches qu'on arrive à contrecarrer. C'est par les proches qu'on arrive à influencer. Moi, les gens, ils ne veulent pas forcément m'écouter, moi. Mais si tu écoutes, toi, ton oncle qui te raconte quelque chose, tu vas avoir tendance à le croire plus que moi. Et donc, je me sers de ça.
Est-ce qu'aussi, du coup, il faut qu'on accentue... C'est un peu un truc qu'on dit ici dans chaque émission de l'Atelier des médias. La question de l'éducation aux médias, elle est fondamentale. Fondamentale pour les enfants dans les écoles. Mais on se rend compte qu'elle est fondamentale aussi pour les adultes. Il y a une méconnaissance totale du monde du journalisme, tu le dis. Mais une méconnaissance totale aussi de la façon de s'informer, de savoir où aller chercher l'information. Et puis après, savoir aussi se poser la question de se dire « Ok, dois-je partager cette information ou cet article que j'ai trouvé sur un obscur site internet à ma communauté, mes amis, sans aller creuser moi-même avant ? » Une question de responsabilité aussi, j'ai envie de dire.
Alors moi, je fais de l'éducation aux médias depuis plusieurs années, donc j'y crois. Le fait d'aller voir des gamins et de parler avec eux, fake news, etc. Parce que oui, c'est les prochains électeurs, donc ça, j'y crois. Simplement, ce dont je suis persuadé et d'expérience, c'est que ceux qui sont le plus pollués par la désinformation... Ceux qui sont les plus hardcore, si vous voulez, dans ce domaine-là, c'est pas les plus jeunes. C'est des gens qui ont parfois plus de 60 ans. C'est eux qu'on retrouve à monter des pages Facebook complètement délirantes où ils se parlent entre eux et c'est eux qui descendent beaucoup dans la rue. Il faut pas se mentir, moi, dans les manifs pass sanitaires, alors j'enlève les gens qui sont contre le pass sanitaire pour des raisons de liberté, encore une fois, mais les gens qui propagent la désinformation dans les manifestations sur le pass sanitaire, c'est pas les jeunes. C'est des gens âgés, qui n'ont pas les clés pour décoder comment ça marche les réseaux sociaux, qui se rendent pas compte que sur Facebook, ils ne reçoivent des infos que de gens qui sont d'accord avec eux, parce qu'ils n'ont pas le début de la compréhension de ce que c'est qu'un algorithme dont tu parles, j'imagine, tout le temps dans cette émission.
C'est ça, les bulles de filtre qui font, comme tu le disais, que si on aime sur Facebook des statuts ou des profils ou des articles qui sont, par exemple, complotistes ou qui sont anti-vaccins, eh bien, on ne va voir presque que ça sur Facebook et donc croire que c'est la pensée dominante, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Exactement. Et autant les plus jeunes, à mon avis, de plus en plus ont réalisé ça parce qu'ils sont nés avec, c'est des natifs, autant les personnes plus âgées, les générations de 40, 50, peut-être 60 ans, et même plus, parce que sur Facebook, on a des gens de 80 ans, hein. Eux peuvent être des grands, grands désinformateurs parce qu'ils se sont en fait embarqués et complètement pris point et main lié dans ces réseaux de désinformation.
Tu dépenses beaucoup d'énergie, tu passes beaucoup de temps dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, à essayer d'expliquer ta démarche, à montrer ton travail, l'envers du décor. Est-ce que c'est quelque chose que, pour toi, chaque journaliste doit faire ?
Ben, moi, je suis tout terrain. Moi, je pense qu'on doit être des journalistes tout terrain. Après, je ne sais pas si tout le monde a envie de le faire. Moi, j'ai envie de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le média m'importe moins que le contenu, le message. C'est-à-dire que si j'ai fait une enquête qui montre quelque chose, j'ai envie que l'enquête, elle soit diffusée le plus largement possible. Je m'en fiche que si je suis journaliste web, télé, radio, ça m'intéresse pas. Moi, je travaille sur du contenu. Donc, je fais des enquêtes et ces enquêtes, je veux que tout le monde les voit. Alors après, on n'est pas aussi bon dans tous les domaines. Il y a des gens meilleurs pour écrire des papiers, mais d'autres meilleurs pour faire de la télé, peut-être. Mais moi, tant que je peux aller partout, je le fais. Et donc, j'ai ensuite cette façon de travailler depuis très longtemps qui est que je m'aide moi-même, c'est-à-dire que j'ai mes propres réseaux, je sais que Steven, tu le fais aussi très bien, et j'essaye de diffuser sur mes propres réseaux aussi, autant qu'à la télévision. Voilà, tout terrain, autant que possible.
Merci Julien Pin. Je rappelle ton émission Vrai ou Fake, tous les dimanches à 21h15 sur France Info, une émission qu'on peut aussi retrouver en replay sur France.tv. À bientôt dans l'Atelier des médias.
À très bientôt, j'espère.
C'est bientôt la fin de cette émission et terminons comme chaque semaine par Mondo Blog Audio qui vous fait entendre les voix des centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est un blogueur de la République démocratique du Congo, Jean-Hubert Bondo, qui a la parole. Depuis le Kasaï oriental, il évoque le terrorisme à travers la lettre d'un musulman adressée à ceux qui se radicalisent et qui sombrent dans la violence.
Le monde est devenu invivable. Le terrorisme est partout. Y a-t-il encore dans le monde une région qui n'ait pas été frappée par le terrorisme ? Je n'en connais pas. Le fléau terroriste n'épargne aucune région du monde. Attentat à la bombe par ici, voiture piégée par là, avion qui s'écrase, attaque kamikaze, fusillade, décapitation, Dans quel monde vivons-nous? Ben, dans un monde où l'on vit le terrorisme presque tous les jours, avec son cortège quotidien de violence, de mort et d'atrocité. D'où vient cet islam de crimes, de bombes et de kamikazes? Qui sont ces terroristes? Comment en est-on arrivé là? Il y a lieu de perdre espoir dans la vie sous le soleil. Je suis musulman et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment, d'après le Coran, on serait autorisé à faire une telle boucherie humaine. Dans les attentats, parmi les morts, on compte des musulmans comme moi, tués par ceux qui pensent qu'ils sont plus musulmans que d'autres. Et si c'est cela l'islam, alors je regrette. Je regrette d'être musulman. Je suis excédé par cet islam fourvoyé, égaré, sali. Cet islam radical n'est pas l'islam que l'on m'a appris. Pour moi, l'islam, c'est mettre en pratique les valeurs morales de paix et de tolérance prônées par Allah et son saint prophète. Faire notre prière chaque jour, nous rendre à la mosquée, observer le ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque, cohabiter pacifiquement avec d'autres religions. Voilà l'islam que moi je connais, pas un islam de terreur. Quand je lève les yeux au ciel, hélas, Allah reste silencieux. Il ne nous dit pas ce qu'il pense de ces fondamentalistes qui tuent en son nom. Et ce qui est étonnant, c'est l'engouement pour l'islam radical. Ce n'était pas comme ça auparavant, mais maintenant, les gens sont comme envoûtés. À qui faire confiance maintenant ? On utilise même les petites filles de 10 ans, celles qui devaient aller à l'école. À la place, on leur propose une ceinture d'explosifs qui désingue les chairs et désintègre les corps de ceux qui la portent. Et aux petits garçons, on offre des kalachnikovs, moins fatales que la dynamite, plus propres. On leur livre le permis de tuer. Comment trouver une réponse au terrorisme? Je ne sais pas. Peut-être faut-il un autre monde où vivre, car maintenant, je suis un peu perdu. Je ne sais plus dans quel monde nous vivons. Je ne sais plus dans quel monde vivre.
C'était Jean-Hubert Bondo, mondoblogueur congolais depuis Mbujimaï, au centre de la RDC. Retrouvez-le sur son blog, dont l'adresse est on ne peut plus simple, rdc.mondoblog.org. C'est ainsi que se termine cette émission enregistrée avec Simon De Creuse et réalisée par Sophie Janin, que je remercie chaleureusement. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que c'est encore mieux en podcast, car nous sommes disponibles en version longue sur toutes les plateformes et applications. Vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Rendez-vous dans une semaine, même jour, même heure à la radio et en podcast pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.